quatrième et dernier temps de notre série titrée « Sous le vernis de la Renaissance ». Aujourd'hui, nous débattons des guerres à la Renaissance. Un nouvel épisode de notre feuilleton sur l'enseignement de l'histoire en classe, la fabrique de l'histoire scolaire, comme tous les jeudis. Nous aurons le plaisir, avec Victor Massé de Lépinay, de recevoir Jean-Marie Le Gall. Il est professeur d'histoire moderne à l'université de Paris 1 et auteur, entre autres, de L'honneur perdu de François Ier, Pavie 1525, dans la bibliothèque historique Payot. Et Florence Salazar est également notre invitée. Elle est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de François Rabelais de Tours et elle vient de publier aux presses universitaires de Rennes La bataille oubliée, Agnadel 1509, Louis XII contre les Vénitiens. Avec eux, nous nous interrogerons sur le rôle des guerres d'Italie dans la pensée politique et philosophique de la Renaissance, des guerres qui furent contemporaines de l'invention de l'imprimerie et qui ont donné lieu, pour certaines d'entre elles, à un très grand nombre d'écrits qu'ont travaillé donc ces deux historiennes et historiens. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, un nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire préparé par Séverine Yattard.
Charlemagne, fils de Bépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Des dates, c'est un pyro, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Des dates, c'est un pyro, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Véronique Servat est enseignante en histoire au collège Paul-Éluard à Montreuil. Adhérente au SNES, le syndicat national des enseignants de second degré, elle a été responsable du groupe de réflexion sur les contenus en histoire au moment de la refonte des programmes du collège en 2015. Une réforme qui a suscité en histoire un certain nombre de polémiques.
Cette refonte des programmes, elle n'est pas toujours soumise au même processus. Et là, en l'occurrence, une des premières étapes, ça a été la mise en place du Conseil supérieur des programmes. Voilà. Et puis après, évidemment, se sont engagés petit à petit, même si il y avait une idée de programme curriculaire, d'écriture curriculaire et puis de transdisciplinarité qui irriguait un petit peu le projet. Il y a eu quand même des discussions sur l'histoire-géographie dans lesquelles le SNES, évidemment, en tant que syndicat majoritaire, a été partie prenante. Au même titre que des associations disciplinaires, par exemple, ou des collectifs.
Et qu'est-ce qui ressortait, Véronique Servat, enfin, dans vos souvenirs, hein, de ces consultations, justement, sur ce qu'il faudrait qu'il y ait dans ces programmes ou,
Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de consensus à l'intérieur du monde des enseignants de l'histoire-géographie sur la façon dont les programmes devraient être écrits, à une exception près. Ce qui revenait tout le temps et qui était très largement partagé, c'est l'idée que les programmes devaient se soucier de leur faisabilité. Voilà. Et vraiment, ça faisait consensus. Il était nécessaire d'alléger. Il se trouve que la première proposition qui proposait justement des programmes très souples avec des questions, c'est pas vraiment au choix, mais sur lesquels on pouvait insister plus ou moins, qui nous laissait une liberté de moduler, de construire, de cheminer à l'intérieur, avait rencontré beaucoup d'assentiments, sachant qu'aussi, on était assez séduit par cette idée d'ouverture, de regard décentré.
Donc il y a eu une première proposition de programme, et il y a eu un retournement. Parce que certains ont trouvé justement que ces programmes étaient peut-être trop ouverts, trop souples.
Il y a eu une espèce d'embrasement de la réacosphère. Et cette réacosphère, elle manipule à la fois cette idée-là, c'est-à-dire que à partir du moment où moi on m'a enseigné comme ça, ben il faut que ça se perpétue. Elle manie aussi, voilà, ce retour du récit national qu'on perçoit encore actuellement dans la campagne électorale, par exemple. Beaucoup de candidats le manipulent à leur risque et péril, d'ailleurs. Elle s'est saisie à peu près de tous les fils possibles. Donc, du coup, ben on s'est retrouvé avec des programmes qui sont quasiment, alors dans leurs problématiques, dans leurs approches à construire en classe différents des précédents, Donc c'est, pour nous, c'est compliqué parce que ça signifie qu'on ne peut pas simplement reconduire ce qu'on faisait, mais qu'il faut bien tout refaire. Mais néanmoins, en termes de thématique, il n'y a aucune nouveauté, quoi. C'est d'une tristesse infinie. On patine dans des trucs qu'on enseigne depuis des années, avec parfois même des retours, je dirais, historiographiques absolument grotesques.
Alors du genre, par exemple, Véronique Servat.
La révolution industrielle, enfin, c'est un terme que plus aucun chercheur en emploie. Soyons sérieux, quoi. On sait très bien que la révolution industrielle, l'idée de révolution, c'est l'idée de changement brusque. En l'occurrence, tous les historiens qui travaillent sur ce processus
savent que c'est un processus, que c'est pas...
Voilà, exactement. C'est un processus long, surtout le 19e siècle, qui n'avance pas de la même façon dans tous les pays européens. Enfin bon, je crois que si on revient sur le terrain professionnel, ce dont nous avons besoin, nous, aujourd'hui, en tant qu'enseignants, c'est qu'on nous laisse un peu travailler avec notre expertise professionnelle. Voilà. Des lignes de programme très générales, qui nous laisse la liberté d'aborder les sujets comme on le souhaite, au prisme d'une histoire des femmes, au prisme d'une histoire des dominés, au prisme d'une histoire des Européens, au prisme comme on veut. On sait le faire. On a des bacs plus 5. Après tout, à bout d'un moment, ça va, quoi. On est quand même compétents sur nos pratiques et nos connaissances disciplinaires. L'idée, en fait, c'est juste qu'on ait le temps de travailler, quoi. Donc, quitte à faire un chapitre sur la chrétienté médiévale, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est structurant, mais autant nous laisser le temps de le faire pleinement et de montrer les implications longue de ce pourquoi pas d'ailleurs l'étirer sur au-delà du Moyen-Âge, pourquoi pas faire dans le renouvellement des questions, il y a la question des thématiques, il y a surtout la question des approches, en fait. Pas d'histoire comparative, pas d'histoire globale. Voilà, pas d'histoire globale, très peu d'histoire sociale, donc pas d'histoire par le bas. Les élèves qui s'avalent le programme de troisième, qui pourtant, voilà, est quand même très interpellant, ils passent leur temps à travailler sur la guerre toute l'année. C'est insupportable au bout d'un moment. Voilà. Bon, c'est vraiment le genre de truc qui fait bondir les gens, mais moi, on me dirait d'arrêter d'enseigner la Première ou la Deuxième Guerre mondiale en troisième, mais pourquoi pas, si on peut faire autre chose aussi. L'histoire, dans la sphère scolaire, n'est pas la seule façon dont les élèves se constituent un savoir historique. Donc si on ne le fait pas, ou si on le fait plus tard, ou si on le fait autrement, de toute façon, dans le temps que ça arrive à un moment donné dans le cursus des élèves, pourquoi pas ?
Voici donc la dernière émission de cette série consacrée à la Renaissance dans la fabrique de l'histoire. Avec vous, Victor Mastel-Lépiné, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et avec vous, Florence Alazard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne à l'université François Rabelais à Tours. Et vous êtes chercheuse au Centre d'études supérieures de la Renaissance, extrêmement renommée, toujours dans cette même ville de Tours. Et vous venez de publier, après avoir travaillé beaucoup sur la musique à la Renaissance, vous venez de publier La bataille oubliée, Agnadel 1509, Louis XII contre les Vénitiens, aux presses universitaires de Rennes, avec une préface de Patrick Boucheron. Et nous sommes également avec vous, Jean-Marie Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à Paris 1. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur la guerre en particulier et sur les défaites aussi pendant la période de la Renaissance. Et vous avez publié il y a 2 ans maintenant L'honneur perdu de François Ier, Pavie 1525, chez Payot. Et puis vous publiez tout récemment, c'est donc chez Droz, ça vient tout juste de sortir, Les guerres d'Italie, 1494-1559, une lecture religieuse. Peut-on d'ailleurs commencer sur cette question des guerres d'Italie, puisqu'elles vont nous occuper, ces guerres d'Italie, dans cette émission jusqu'à 10h, en nous posant la question des différentes lectures qu'en ont fait au cours des temps les historiens et les historiennes, et à la façon dont ces guerres d'Italie ont pu être lues de façon différente, justement, en particulier pour séparer, puisqu'il a fallu le séparer, c'est comme ça que l'on considère aujourd'hui la chose, la Renaissance du Moyen-Âge, et donc séparer la façon de faire la guerre au Moyen-Âge, supposément, avec la façon dont on a fait la guerre à la Renaissance, et en particulier au moment de ces guerres d'Italie, Florence Alazard.
Oui, en effet. Alors, il y a des strates, en fait, de lecture de ces guerres d'Italie. Dans l'historiographie française, elles sont traditionnellement utilisées pour marquer, justement, l'arrivée de la supposée, j'utiliserai ce terme, de la supposée Renaissance en France, avec l'idée que c'est Charles VIII qui, revenant de son périple à Naples, aurait rapporté avec lui la Renaissance italienne. Mais ça fait longtemps qu'on est revenu sur cette interprétation, parce qu'on sait qu'il y avait des prémices, en fait, d'une Renaissance déjà française et que la question de la diffusion, plus généralement, de la diffusion d'une renaissance européenne s'est posée bien avant ces guerres et se posera ensuite après également. Sinon, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est l'idée que les guerres d'Italie auraient introduit une rupture, en fait, dans les pratiques, dans les manières de faire la guerre. Et on trouve souvent, effectivement, cette idée que les guerres d'Italie auraient finalement introduit une nouvelle forme de guerre par la brutalisation de ces guerres, avec l'idée que les guerres médiévales étaient des guerres, finalement, qui touchaient moins les civils, qui entraînaient aussi moins de morts sur le champ de bataille. Mais en réalité, cette idée, elle est essentiellement héritée de poids lourds, si je puis dire,
de
la pensée italienne, à savoir Machiavel et Guichardin, qui tous les deux disaient donc au moment des faits eux-mêmes, que effectivement, j'ai plus en termes exactement les propos de l'un et de l'autre, mais qui soutenaient que c'était finalement les Français qui, arrivant en Italie, avaient introduit de la rapidité et cette fameuse guerre mortelle sur laquelle on reviendra plus tard. Et donc effectivement, il faut faire attention parce qu'en fait, aussi bien Machiavel que Guichardin, en fait, étaient porteurs d'un discours sur ces guerres. Il faudra peut-être prendre nos distances avec cela.
Oui, Jean-Marie Le Gall, c'est d'ailleurs très important parce qu'on est dans une époque, cette renaissance entre la France et l'Italie au moment des guerres d'Italie, où effectivement la production documentaire est nombreuse. On a beaucoup de textes, pas sur tout. D'ailleurs, on en discutera avec Florence Alazar à propos de cette bataille d'Agnadel sur laquelle elle a travaillé en 1509. Mais on a beaucoup de documents, on a beaucoup d'écrits, on a des écrits de théorie politique. Et effectivement, on a souvent eu tendance à prendre ces écrits de théorie politique comme étant la réalité de ce qui s'était passé pendant ces guerres d'Italie, Jean-Marie Le Gall.
Alors je vais répondre en plusieurs temps. Tout d'abord à votre première question, je rajouterai que du point de vue de l'Italie, de l'historiographie italienne, notamment du 19e, il y avait cette idée que les guerres d'Italie contribuaient dans une certaine mesure à la mort de la Renaissance, la vraie, celle du Quattrocento, alors que là, c'est ce qui s'est notamment après le sac de Rome, cette idée qu'on allait quitter la Renaissance,
1526.
ce qui aujourd'hui finalement est une idée remise en cause. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, l'historiographie générale rappelle que ça n'est pas ces guerres d'Italie, un face-à-face entre la France et l'Italie, puisque sont impliquées les monarchies espagnoles et puis aussi l'Empire, parce qu'on oublie qu'une partie de l'Italie est terre d'Empire. Alors d'autre part, pour répondre à votre deuxième question, il est vrai que outre l'effet de seuil sur la guerre, il y a un effet de seuil, et c'est le mérite d'ailleurs, le grand mérite, je crois, du livre de Florence, c'est d'étudier aussi la guerre à travers toute la production de textes. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre qui mobilise que des armes, c'est aussi, elle le montre, une guerre de papier, de publication. Ce qui fait que les guerres d'Italie peuvent être une rupture, en quelque sorte, un effet de seuil entre un Moyen-Âge et une Renaissance. Effet de seuil parce que l'imprimerie est pour la première fois utilisée de manière massive dans la pratique de la guerre, ce qui n'était pas le cas, et ça change quand même un peu la dimension du conflit, outre la mobilisation d'armées avec des effectifs plus importants, les armes à feu, etc., et l'implication, à leur corps défendant d'ailleurs, des civils. Quant à la lecture de... Oui, c'est vrai, le seuil de la modernité, il tient aussi au fait que Guichardin et Machiavel sont un peu considérés comme des auteurs canoniques. Et d'ailleurs, il y a une tendance à ne lire cette période qu'à travers cette magnifique histoire de l'Italie de Guichardin. Finalement, on sait très bien, par exemple, que si on prend Machiavel, il ne décrit pas la guerre telle qu'elle se pratique, effectivement. C'est un utopiste militaire, finalement, puisqu'il a le modèle des milices antiques, il dénonce le mercenariat, alors qu'on sait très bien que ces milices, lorsqu'on a pu les voir à l'œuvre, ne sont peut-être pas si efficaces, et que les mercenaires sont véritablement des professionnels.
Quelles sont ces milices, justement ?
Oui, ben il s'agit, dans le cas de la République vénitienne, qui avait un territoire extrêmement important, sa fameuse terre ferme acquise tout au long du XVe siècle, et qui donc mobilisait ses milices, essentiellement d'ailleurs des milices paysannes qui étaient sur la terre ferme, dont elle vantait d'ailleurs la fidélité, parce que c'était pour Venise un moyen de dire, vous voyez, on a étendu notre empire, et notre empire nous soutient puisque nous avons ces milices-là, mais qui, en l'occurrence, ont posé quelques problèmes en mai 1509, puisque, alors après, c'est à discuter, puisque, évidemment, on peut voir ici ou là, comme par exemple à Trévise, une très grande fidélité de ces milices, mais ailleurs, au contraire, effectivement, un effondrement de Saint-Empire, de cet empire, pardon, et de ces milices en question. Donc,
Oui, je voudrais revenir quand même sur le champ de bataille, puisqu'on va voir qu'une bataille, c'est beaucoup de production de papier, c'est toute une historiographie dont on va parler. Mais tout de même, sur ce champ de bataille, et puisqu'on a évoqué Machiavel et les évolutions, est-ce qu'on peut s'y attarder un petit peu? On a pu parler pour la Renaissance d'une révolution militaire, qui était une révolution à la fois tactique, stratégique, des effectifs engagés, vous l'avez dit, des armes évidemment avec l'artillerie. Et cette idée de révolution militaire est un peu remise en cause aujourd'hui, y compris par vous, Florence Elzar. Qu'est-ce qui a véritablement changé quand même dans la façon de faire la guerre, disons, au XVIe siècle, et qu'est-ce qui a moins changé sur le champ de bataille?
Je crois que l'historiographie qui a forgé le concept de révolution militaire, tout d'abord...
C'est dans les années 50.
Voyez la révolution militaire un peu plus tard, à la fin du XVIe siècle. C'est plutôt d'ailleurs dans, voilà, c'est Parker et c'est plutôt dans le monde d'ailleurs de la guerre des Pays-Bas. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur la pertinence de continuer de qualifier ces guerres de guerre d'Italie, dans la mesure où elles se situent effectivement en Italie, mais l'enjeu n'est pas que l'Italie. Très vite, ça devient la rivalité entre les deux grandes monarchies françaises et espagnoles. Et le théâtre d'opération est italien, mais pas exclusivement italien. Alors, pour répondre à votre question sur l'évolution, oui, il y a des effectifs plus importants. Il y a l'usage de l'arme à feu portative, les canons que l'on déplace. Il y a des améliorations de ce côté-là. Il y a un art de la fortification qui se développe de manière importante. À Ferrare, par exemple, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à Ferrare, il y a à la fois... tout cet art, la fortification, et en même temps, on sait que les ducs de Ferrare sont ceux qui ont le parc d'artillerie, en quelque sorte, le plus prisé, peut-être, de l'époque, en Italie. Dans la mer, évidemment, les techniques navales qui évoluent un peu. De là à parler de révolution, c'est peut-être un peu excessif, c'est sûrement excessif.
Florence Alazard.
Oui, je suis évidemment tout à fait d'accord avec Jean-Marie Le Gall. Peut-être on peut ajouter ce que Frédéric Verrier appelle l'humanisme militaire, qui est en fait la façon dont les humanistes se sont emparés de ces questions militaires et ont contribué effectivement du coup à développer une pensée qui est une pensée de la stratégie et de la tactique. Pour le reste, en effet, on voit quand même beaucoup de continuité finalement avec ce qui se passait précédemment. C'est-à-dire que par exemple, l'idée que les guerres d'Italie aurait vu davantage les civils impliqués, me laisse un peu perplexe parce que finalement, les grandes chevauchées des guerres de 100 ans, elles touchaient aussi les civils. Hein. Donc les sacs de ville, comme nouveauté, peut-être, mais ça n'empêchait pas les civils d'être déjà impliqués par les guerres auparavant.
Et tout de même, il y a peut-être quelque chose, Jean-Marie Le Gall, c'est l'image que l'on se fait de la guerre et l'image que l'on se fait du guerrier, peut-être pas dans les faits, mais dans l'imaginaire que trimballent avec soi les grands chefs de guerre des guerres d'Italie, et en particulier les rois qui vont sur le terrain. Par exemple, François Ier a-t-il un imaginaire différent, par exemple, d'un autre souverain, soit plus tardif, soit antérieur à lui?
Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a effectivement... l'humanisme et cette espèce de mise en art, en quelque sorte, de la guerre qui avait été pratiquée par les anciens, qu'ils pratiquent. Il y a ensuite la diffusion massive de cette réflexion à travers l'imprimé. Et puis, il y a aussi, comme vous le dites, la culture visuelle, parce que la Renaissance, c'est quand même l'essor d'une culture visuelle relayée par la peinture, mais aussi véhiculé par la statuaire, pour l'imaginaire du condottiere, par exemple, et puis aussi par tout ce qui est imprimé. Alors, est-ce que l'imaginaire de la guerre... Je pense que quand Henri VIII descend en France, par exemple, son imaginaire, c'est de réaliser un nouvel Azincourt. Et donc d'être digne des ancêtres des rois médiévaux d'avant la guerre des Deux Roses. Et quant à François Ier, comme d'ailleurs un certain nombre de souverains de l'époque, l'Italie, c'est à la fois, finalement, la tête de pont pour partir en croisade. Donc il y a un imaginaire qui est lié à la croisade dans les conflits italiens, donc un imaginaire religieux qu'il ne faut pas sous-estimer. Et d'ailleurs, les armes religieuses ont été employées, mises en excommunication, interdites, mises en proie des royaumes. Il y a d'autre part, ensuite, le fait que c'est le cœur de l'Empire. L'objectif de Charles Quint, c'est d'aller prendre ses couronnes. Tant qu'il n'aura pas pris ses couronnes et qu'il ne sera pas le dernier empereur couronné par un pape, il ne pourra pas désigner son successeur. Donc c'est la question de la succession des Habsbourg, enfin de la couronne impériale dans la famille Habsbourg qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle François Ier y descend, pour empêcher pendant 10 ans Charles Quint de prendre ses couronnes. Donc c'est à la fois une terre qui est une terre riche, c'est une des régions les plus riches d'Europe, les plus densément urbanisées, c'est un imaginaire de la croisade, c'est un imaginaire impérial qui se joue en Italie.
Victor Massé-Dépinay.
Et chez les populations, j'allais dire, parce que là on parle de l'imaginaire des rois, mais comment est-ce que la guerre irrigue toute la société, alors, et en particulier les mentalités?
Dès le début des guerres d'Italie, jusqu'au Conseil du Roi, il y a eu en France des opposants à ces guerres d'Italie. Il y a eu des opposants dans l'entourage de Charles VIII, et en 1525 aussi, Louise de Savoie et un certain nombre de grands seigneurs ne sont pas favorables. Et de ce point de vue-là, Pavie est un tournant, et on trouve dans, par exemple, ce journal d'Honoré de Valbel, mais aussi chez un chanoine parisien qui meurt pendant l'année de Pavie, qui est Guillaume Crétin, une opposition. Les rois n'ont pas à quitter, en quelque sorte, le royaume auquel ils sont mariés. Et il y a, et en Italie aussi, des gens qui ne participent pas du tout de cet imaginaire. Florence accorde une part, par exemple, au Ruzante, je crois qu'il faut en parler.
Oui, effectivement, c'est très intéressant. Je te rejoins déjà sur le Royaume de France. Hein. Effectivement, des oppositions déjà à Charles VIII. Pour Louis XII, on le voit aussi très clairement, hein, avec la publication d'un certain nombre de textes, alors qu'ils ne sont pas ouvertement des textes anti-guerre, mais qui laissent entendre qu'il y a des voix discordantes, en fait, dans le Royaume, pour différentes raisons. Hein, avec essentiellement, quand même, cette idée qu'effectivement, le roi quitte son royaume et, comme on le trouve à un moment donné dans des épîtres de Jean d'Auton, hein, attention, quand le roi s'en va, les brebis risquent d'être mangées par le loup. Enfin voilà, il y a cette dimension quand même du fameux père du peuple, justement, qui va s'éloigner et qui met le royaume en danger. Et puis en Italie, ben, il y a toute cette culture des places qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui à la faveur de nombreux travaux. Cette culture des places, cette culture des chanteurs de rue qui effectivement tiennent des discours à la fois d'information sur les événements, à la fois de mobilisation parfois pour la guerre, et puis aussi, alors, cette très belle pièce, donc effectivement, de Ruzante, qui est donc un auteur padouan, donc sa pièce est publiée plutôt dans les années 1550, mais on pense qu'elle a dû être jouée déjà sur les places dans les années 1520, qui met en scène donc un soldat, enfin en fait un ancien paysan devenu soldat et qui revient à Venise après donc avoir guerroyé, et qui commence en disant « merde pour la guerre » et qui délivre un tissu d'insanité contre la guerre, et en particulier parce qu'elle n'apporte que des malheurs au pauvre peuple.
En fait, Victor Massé-Dépinay. Hein.
Justement, je voulais vous interroger sur cette piétaille qui part au combat, puisqu'on a parlé de l'accroissement des effectifs quand même dès le début du XVIe siècle. Il y a énormément d'hommes qui partent au combat, des fantassins, donc de l'infanterie, qui sont, vous l'avez dit, par exemple, des anciens paysans. Est-ce que sur les champs de bataille du XVIe siècle, ces militaires, enfin, ou ces soldats, sont des gens qui sont convaincus par la nécessité de la guerre, convaincus par la beauté de la guerre, ou est-ce qu'on peut avoir dans les troupes, dans les lignes, des mentalités différentes?
Je crois qu'il faut la distinguer selon les puissances. Le royaume de France, qui est le plus densément peuplé, n'est pas un royaume qui fournit une infanterie. La piétaille française est peu estimée, et puis on a du mal à armer en quelque sorte les sujets. Donc les rois de France, qui ont une puissante chevalerie, et l'imaginaire chevaleresque est alimenté par les guerres d'Italie, eh bien on recourt à des mercenaires, suisses ou lansquenets. Et c'est vrai que dans le sud de l'Allemagne et en Suisse, il y a finalement, ces mercenaires font vivre
la population
et font vivre même les élites en Suisse.
Par les transferts d'argent
Transferts d'argent importants, les pensions que la monarchie française donne aux notables suisses, au point d'ailleurs que Zwingli dénoncera cette dénaturation de la Suisse et des jeunes Suisses, des pères en quelque sorte vendent leurs fils pour qu'ils aillent se corrompre en quelque sorte en Italie. Pour ce qui est de l'Espagne, il y a eu là une infanterie espagnole qui va donner naissance d'ailleurs à partir des années 1530-40 au système des tertios, et avec une valorisation, je dirais presque chevaleresque, de l'Hidalgo qui est engagé dans ces régiments de tertios. La noblesse espagnole, les Hidalgo espagnols ne considèrent pas que c'est déchoir. Il y a véritablement là un anoblissement de l'infanterie espagnole qui se joue pendant les guerres d'Italie.
Extrait de La guerre de Clément Jeannequin par l'ensemble vocal Jacques Moderne, dirigé par Joël Chubiette. Alors si on entre dans une bataille, ce qui peut-être permettra à nos auditeurs de s'imaginer ce qu'était une bataille de ces guerres d'Italie, entrons par exemple dans la bataille d'Agnadel, à laquelle vous avez consacré, Florence Salazar, un livre qui vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. La bataille d'Agnadel, c'est 1509. Ce livre est sous-titré « Louis XII contre les Vénitiens » est titré « La bataille oubliée ». Alors, vous partez d'une idée tout à fait classique, pourrait-on dire, de l'historiographie, c'est-à-dire vous demandez pourquoi, effectivement, alors que à une période, cette bataille d'Agnadel était connue de tous les Français, elle avait fini par disparaître de leur mémoire, et vous repartez de tous ces textes dont parlait tout à l'heure Jean-Marie Le Gall, qui ont pourtant mis en avant cette bataille donc de la France contre les Vénitiens dans un contexte des guerres d'Italie du début du XVIe siècle, Florence Salazar.
Oui, alors à vrai dire, mon souci principal n'est pas de réparer l'injustice dans laquelle Agnadel aurait été oubliée. C'est pas vraiment un problème.
Non, mais c'est de comprendre pourquoi elle a été mise en avant et puis ensuite oubliée.
Oubliée. En fait, je suis arrivée à Agnadel par un certain nombre de détours, c'est-à-dire travaillant d'abord sur d'autres questions qui étaient la littérature déplorative d'une manière générale dans les guerres d'Italie. J'ai remarqué qu'il y avait un pic en 1509 et un pic en 1509 autour de la soi-disant lamentation des Vénitiens. Et donc ce moment m'a intéressée parce que j'avais le sentiment qu'il y avait sur le plan justement de la production imprimée beaucoup plus qu'un frémissement, vraiment un flot de textes. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à cette bataille où j'ai remarqué quand même quelque chose aussi d'assez étonnant, c'est-à-dire que c'est vraiment... Alors que la question pendant toutes les guerres d'Italie est celle du renversement des alliances, et on a toujours effectivement une complexité très grande autour de ces alliances, finalement en 1509 c'est très simple, puisqu'il y a Venise et il y a tout le monde
contre elle,
dans la Ligue de Cambrai qui réunit, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, c'est-à-dire y compris
des gens,
l'empereur, le pape, le roi d'Espagne, mais même le roi d'Angleterre, le roi de Hongrie, le marquis de Mantoue, le duc de Savoie, le duc de Ferrare, et j'en oublie très certainement.
Alors tous y sont, mais tous y sont pour des raisons différentes.
Oui, évidemment.
Ça serait trop simple sinon.
Bien sûr, le roi d'Angleterre, c'est parce qu'il a tout intérêt à ce que tout le monde soit très occupé par la péninsule italienne sur le continent. Le roi d'Espagne, c'est parce qu'il espère récupérer des ports qu'il avait laissés à Venise sur la côte des Pouilles. Voilà, le roi d'Hongrie, c'est pour la Dalmatie, parce que évidemment Venise aussi a des intérêts. Enfin bon, ouais, mais tout le monde a intérêt en fait à abaisser la puissance de Venise, qui, il faut dire, est une immense puissance, effectivement, en 1508.
En particulier, grâce à la conquête donc résolue depuis longtemps de ce qu'on appelle la terre ferme.
Bien sûr.
Et en particulier le pape, qui n'est pas très heureux, justement, de cette avancée progressive vers ses propres terres, de ses Vénitiens, qu'il considère comme des chrétiens d'obédience moyenne.
Oui, le pape a énormément de reproches à faire aux Vénitiens. D'abord, très concrètement, depuis la chute de César Borgia, les Vénitiens se sont emparés d'un certain nombre de villes dans la Romagne, et donc mettent en danger vraiment l'état terrestre de du pape, donc c'est déjà une raison suffisante. Par ailleurs, sur le plan des bénéfices, là aussi, les Vénitiens ont pris quelques libertés qui déplaisent fort au pape. Et puis également, alors ça c'est un vieux conflit qui date déjà de Pie II, donc à la fin des années 1450, le pape reproche aux Vénitiens de faire du commerce avec les Ottomans et donc de ne pas être très enclin à la croisade. Et là, on retrouve effectivement, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, la puissance des facteurs religieux, qu'ils soient concrets ou finalement qui relèvent de l'imaginaire. Mais en tout cas, ce reproche-là est fréquemment fait effectivement aux Vénitiens.
Donc cette bataille est enclenchée, elle est gagnée contre les Vénitiens, mais très rapidement, les Vénitiens reprennent une partie de leur position. Ça prendra un certain temps d'aller-retour sur le territoire, mais au bout du compte, ils arriveront à reprendre une partie de leur position. Pourquoi, selon vous, Florence Salazar, et ce que vous racontez dans ce livre paru aux presses universitaires de Rennes, pourquoi justement cette bataille d'Agnadel est-elle si importante et pourquoi est-il important de comprendre ce flot de production que vous décrivez, en particulier littéraire, autour d'une bataille comme celle-ci?
Ça nous permet de toucher ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que si on doit s'interroger sur, alors j'aime pas trop utiliser le terme de modernité, mais bon voilà, ce qui se passe, disons, pendant ces guerres d'Italie, effectivement, la question, je crois, de la révolution militaire se pose assez peu. En réalité. En revanche, oui, c'est la contemporanéité finalement des guerres d'Italie avec l'invention de l'imprimerie et le développement surtout des ateliers. C'est-à-dire les premiers ateliers aussi bien en France qu'en Italie, c'est dans les années 1470. Le grand développement, ça va être jusqu'au début de l'année 1500. Et c'est le moment où effectivement les uns et les autres voient la nécessité d'imprimer des documents. Alors je ne sais pas si on peut utiliser le terme de propagande, mais moi je l'utilise. Mais je conçois qu'on puisse en discuter, une propagande qui a pour fonction de mobiliser finalement les populations autour de cette question de la guerre. C'est à ce moment-là que c'est absolument manifeste.
Et puis Jean-Marie Le Gall, c'est aussi un moment où il n'y a pas que de la propagande militaire ou de pouvoir pour les souverains qui s'affrontent sur les terrains de bataille d'Italie, mais aussi une propagande religieux, sur laquelle vous avez travaillé pour le dernier livre que vous avez publié chez De Rose, qui s'appelle « Les guerres d'Italie, une lecture religieuse », où, avant la réforme, on est vraiment à quelques encablures de la réforme qui va se mettre en place en Europe à ce moment-là et qui va provoquer d'autres guerres plus tard. Juste avant la réforme, la question théologico-religieuse est une question essentielle et importante, Jean-Marie Le Gall.
Oui, je vais répondre à ça. Je voudrais simplement rajouter quelque chose. Florence dit il n'y a pas effectivement de révolution militaire et son ouvrage souligne le rôle de l'imprimé. Or, il faut bien voir que les grands adversaires des Européens à l'époque qui menacent une partie du continent, c'est le monde turc. Et ce sont des adversaires redoutables et souvent plus puissants sur le champ de bataille que les souverains européens. Or, ce qui caractérise le monde ottoman, c'est justement l'absence d'imprimerie, et durablement. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, je reviens à votre question. Oui, effectivement, les guerres d'Italie sont souvent considérées comme un seuil donc de la modernité politique, militaire, dans les clichés habituels. Et j'ai simplement voulu proposer une lecture qui fasse un peu de place aux enjeux religieux des guerres d'Italie.
Quels sont-ils ?
Bien, par exemple, on peut avoir une lecture qui est celle qui a été proposée par Florence et par Guichardin ou d'autres, la plainte, c'est-à-dire la déploration, les horreurs des guerres d'Italie. Or, je crois que les guerres d'Italie sont en même temps travaillées par des espérances eschatologiques qui portent des projets politiques, aussi bien le messianisme impérial que, par exemple, les révolutions florentines. Celle animée par Savonarole et ensuite par les Savonaroliens qui repointent le bout du nez après la chute de Rome. D'autre part, il y a un véritable enjeu sur le statut de la monarchie pontificale. On peut lire la papauté comme étant une papauté qui s'est totalement sécularisée, avec des familles, les Borgia, les Farnèse, qui cherchent à placer leurs fils dans des états, leur créer des duchés comme à Parme, etc. Or, derrière, il y a véritablement, de la part de la papauté, l'idée que défendre la liberté de l'Italie, c'est défendre la liberté de l'Église. Et le pape n'est pas pape s'il n'est pas libre et pleinement libre dans ces états, au risque de devenir le chapelain d'un roi d'Espagne ou d'un roi de France qui règne à Milan ou qui règne à Naples. Donc il y a véritablement eu, avant les guerres avant la réforme, déjà un concile, par exemple, qui est totalement oublié, qui est le concile de Pise, et qui a quand même établi durablement la supériorité du pape sur le concile, des conciles qui jusqu'à présent servaient principalement d'armes aux monarchies pour essayer de fragiliser l'autorité pontificale. Et puis après 1520, il y a le problème de la diffusion de l'hétérodoxie, de la réforme dans le monde italien, avec des polarisations entre les impériaux et les Français sur la question de savoir qui est le plus hétérodoxe ou pas. Donc on peut faire une lecture, en quelque sorte, de ces religieuses de ces guerres. Ce qui n'en fait pas des guerres de religion.
Oui. Victor Massé de
l'Épine. Mais est-ce que ça veut dire que la victoire ou la défaite, en l'occurrence, peuvent être interprétées comme un peu comme des ordalies ou comme Dieu qui intervient et qui sanctionne telle ou telle puissance, Florence Salazar?
Pour ce qui regarde par exemple Annie Adèle, on ne voit pas trop de lecture religieuse. Alors évidemment, Louis XII après...
On n'est pas à Bouvines
Pas du tout. Louis XII après, effectivement, va faire une petite chapelle. Enfin, ça, c'est relativement attendu. Il dit effectivement qu'il ne doit sa victoire qu'à Dieu, mais là aussi c'est attendu, d'autant plus qu'il est dans une logique effectivement d'un roi modeste et dans la retenue.
Mais du côté des vaincus, peut-être, parce que les Vénitiens...
Très peu. D'abord, la situation particulière des Vénitiens, c'est qu'ils sont excommuniés. Hein, donc, il faut rappeler quand même cette dimension, là aussi, d'armes religieuses qui est utilisée, là, en l'occurrence, par Jules II. Et ils resteront jusqu'en février 1510, ce qui crée quand même une situation, évidemment, un peu particulière, même si les Vénitiens font tout pour cacher cette situation. C'est-à-dire qu'on en parle très peu. On répond, évidemment, au pape... tout de même, mais l'idée c'est vraiment de jeter un voile sur cette excommunication et faire comme si finalement la vie continuait. Et puis surtout, pour les Vénitiens, l'enjeu c'est, mais après Annie Adèle, bien après Annie Adèle, de montrer que finalement Venise s'est relevée. Et donc d'ailleurs, d'une part, d'accentuer finalement la défaite d'Annie Adèle pour mieux montrer justement la capacité de résilience de Venise.
Jean-Marie Le Gain.
Alors, c'est pas le cas d'autres batailles. Prenons quelques années plus tard, une bataille terrible, sanglante, qui apparaît même très souvent comme étant la première grande bataille avec autant de morts, c'est la bataille de Ravenne, le jour de Pâques 1512, avec deux armées qui ont chacune en leur sein un légat en situation de schisme, puisque le roi de France est un schismatique, et puis d'autre part une armée pontificale soutenue par l'Espagne, qui est un véritable carnage, qui fait que d'ailleurs même les vainqueurs, c'est-à-dire le roi de France, vont hésiter à célébrer ça comme une victoire, parce que la notion de défaite et de victoire est quelque chose de très relatif. Oui, les Français ont peut-être gagné la bataille de Ravenne, mais ils ont perdu Gaston de Foix, qui était quand même du sang de France, et ils ont peut-être eu plus de morts que les Vénitiens. Quant à Pavie, eh bien évidemment, Charles Quint fait une lecture providentialiste de cette défaite. Il a pris le roi le jour de son anniversaire, alors qu'il devait être finalement... l'armée espagnole devait être a priori vaincue.
Rappelons que François Ier est donc fait prisonnier à Pavie à ce moment-là.
Et justement, l'argumentation française, aussi bien au point de vue de la diplomatie, mais que de la propagande, de dire que ça n'est pas la providence divine qui s'est manifestée, c'est la fortuna. Et la fortune peut se faire et se défaire. Et on a donc, si vous voulez, une mobilisation de discours différents pour interpréter un même événement.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Thank you.
de la bataille par un compositeur du XVIe siècle, Annibale Padovano. Alors si on s'achemine vers la fin de cette émission consacrée aux guerres, à la Renaissance et en particulier aux guerres d'Italie, une des questions que l'on peut poser, c'est l'énorme production, pourrait-on dire, de théorie politique et peut-être aussi de pratique politique que ces guerres d'Italie conduisent à les contemporains à imaginer. Florence Salazar, qu'est-ce qu'on peut dire de cela? C'est-à-dire comment une bataille comme celle d'Annaïadel, sur laquelle vous avez travaillé, qui vient d'être dans un livre qui vient d'être publié aux presses universitaires de Rennes, a-t-elle aidé des penseurs du politique, alors on pense évidemment à Machiavel ou à d'autres, mais des penseurs du politique à imaginer une théorie du pouvoir, une théorie de la place de la guerre dans les sociétés, et une pratique politique peut-être différente, Florence Salazar?
Oui, alors moi je crois que ce qui est vraiment ici intéressant, c'est justement de quitter la théorie, celle de Machiavel et Guichardin, à laquelle justement on est relativement habitué, pour regarder finalement en quoi tous ces imprimés qui sont publiés témoignent de nouvelles pratique et d'une nouvelle communication politique. C'est-à-dire le fait que tout le monde s'empare donc de ce nouveau média et s'en sert comme d'une arme, en fait. Hein. Je pense, enfin, je vous donnerai juste deux exemples. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait de la plainte et des horreurs de la guerre. Et donc, effectivement, on a cette littérature déplorative. Mais ce qui est intéressant autour d'Annaïadel, c'est que cette littérature déplorative est en fait une parodie. Et donc, toutes les plaintes des Vénitiens, ce ne sont pas les Vénitiens qui se plaignent d'eux-mêmes. Ce serait d'ailleurs absolument absurde. Mais en fait, ce sont les ennemis de Venise, et essentiellement les Ferrare, qui impriment des plaintes des Vénitiens pour accroître, accentuer finalement la défaite des Vénitiens. Donc en fait, on retourne le discours de la plainte contre ceux qui sont déjà vaincus. Un autre exemple aussi, c'est ce faux qui circule juste après Annaïadel, qui est le compte-rendu, disons, d'une visite qu'un ambassadeur vénitien aurait rendu à l'empereur vénitien pour admettre finalement la défaite de Venise, et surtout à l'occasion de laquelle cet ambassadeur aurait annoncé que Venise était prête à devenir sujette de l'Empire. C'est un faux, mais il a circulé en tant que tel, et d'ailleurs Guichardin lui-même le reprend en disant, bah, vous voyez les Vénitiens, puisqu'il avait horreur des Vénitiens, vous voyez, c'est bien le signe de la lâcheté des Vénitiens. Et donc là, c'est l'imprimé comme arme de combat et qui témoigne justement de ces nouvelles pratiques politiques qui permettent finalement d'associer d'ailleurs beaucoup plus que simplement les humanistes et les théoriciens.
Jean-Marie Le Gall.
Alors, dans les humanistes et les théoriciens, il n'y a pas uniquement Machiavel et Guichardin, il y a aussi tous les juristes qui réfléchissent, il y a toute une casuistique
au
droit de la guerre. C'est quand même des discussions importantes.
Et on n'est plus simplement sur la question de la guerre juste comme on y était de Saint Thomas d'Aquin comme à la grande époque.
Alors, évidemment, on les cite beaucoup, mais il y a le droit de faire la guerre, le droit juste, mais il y a aussi le jus in bello qui commence à se définir, c'est-à-dire ce que peut faire ou pas un soldat. Ça, c'est un premier point. Dans la communication politique, il y a évidemment...
Et ça tient à quoi, justement, le fait que le droit s'insère dans cette question-là? Ça tient à un durcissement des combats? Ça tient à
Non, ça participe de la... Oui, évidemment, ça aussi, mais de la mise en art de la guerre, de la volonté, en quelque sorte, de définir le licite et l'illicite, y compris pour un soldat sur le terrain. Et c'est des gens comme Chasseneux, c'est des gens comme... Vittoria, des gens qui sont déjà engagés dans cette réflexion. C'est-à-dire que la pensée juridique, à l'époque, se nourrit à la fois de ce qui se passe aux Indes, mais de ce qui se passe aussi dans les guerres d'Italie, puisque les Italiens pourraient être évidemment traités par les Espagnols comme les Indiens l'ont été. Il y a une connexion. Il y a d'autre part, dans la communication politique, il y a l'imprimé, mais il y a aussi énormément l'oral. L'oralité, ceci n'a pas chassé cela, en quelque sorte. Et pour prendre le cas de Pavie, lorsque l'on discute du traité de paix entre la France et l'Angleterre pendant l'année de Pavie, eh bien, il y a des assemblées dans les villes, par exemple à Paris, et c'est d'ailleurs des assemblées qui se passent pas très bien pour le pouvoir. Mais on discute aussi de questions importantes. Est-ce que le roi de France doit rendre ou pas la Bourgogne? Doit-il revenir se constituer prisonnier? Est-ce que sa parole a été engagée? Donc, il y a véritablement une réflexion importante sur faut-il tenir sa parole ou non dans les traités internationaux? Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « L'honneur perdu de François Ier », parce que ce qui lui a été reproché par la postérité, c'est finalement de n'avoir pas tenu sa parole. Et même dans la littérature, chez Baudin, etc., le fait d'avoir signé le traité de Madrid pour ne pas l'appliquer ensuite n'est pas considéré comme une page glorieuse, en quelque sorte, de la pratique diplomatique française.
Florence Salazar, sur en particulier cette question de l'oralité qui échappe la plupart du temps à l'historienne ou à l'historien, et qui de temps en temps, on arrive à la retrouver, cette oralité, et d'un seul coup, c'est un vrai bonheur d'histoire et d'historien.
C'est très difficile. On en a des témoignages, parce que par exemple, Girolamo Prioli, qui est un Vénitien et qui tient son journal justement en 1509, raconte justement, il dit qu'on entend par les places toutes ces chansons qui vont contre la République de Venise. On trouve, il y a des... Je pense à deux recueils manuscrits, l'un à Milan et l'autre à Venise, où on voit que les contemporains, en fait, recopiaient des chansons. Voilà. Des chansons dont, pour certaines d'ailleurs, étaient imprimées, mais dont on n'a plus de traces dans les bibliothèques. Donc, en fait, quand on lit un manuscrit, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qu'on lit, c'est peut-être finalement quelque chose qui a été imprimé, mais qui, en réalité, nous est resté par la voix du manuscrit, ou quelque chose qui était évidemment chanté, ça va de soi. Et ça, on a pléthore de documents qui témoignent, effectivement, de cette prolifération orale, de ces chansons, pas forcément chantées, d'ailleurs, certaines, sans doute, j'utilise souvent le terme de proféré, c'est-à-dire qu'on imagine effectivement des textes lus avec un petit accompagnement musical, mais qui témoignent effectivement de la vivacité de cette culture orale, ça c'est certain.
Jean-Marie Le Gall.
On a beaucoup parlé de Guichardin et de Machiavel, mais finalement, celui qui nous est le plus utile à toi comme à moi, c'est Marino Sanudo.
Aussi, oui.
Parce qu'il y a quand même 59 volumes de documents qu'il a recueilli au jour le jour, et moi je n'aurais pas pu écrire l'histoire de Pavie si je n'avais pas eu Marino Sanudo qui tous les jours note les relations.
C'est un journal en fait, c'est une sorte de quoi
pas, c'est... Non, c'était un travail préparatoire à une écriture officielle de l'histoire de Venise. Et il n'a jamais finalement obtenu ce poste, mais vu qu'il n'était pas non plus au cœur du patriciat, il a collecté des matériaux et du coup on a toutes les rumeurs. On sait comment il apprend les nouvelles en allant chez le barbier ou en se rendant au théâtre. Donc c'est l'auteur le plus indispensable si on veut voir l'écume des jours.
Même s'il faut questionner aussi ce type de témoignage, dites-vous, Florence Salazar, justement, parce que même ces témoignages-là sont peut-être faits dans un but qui n'est pas celui que l'on lit aujourd'hui ou que l'on croit être le but d'aujourd'hui.
Oui, et puis c'est-à-dire que les sources de nos sources sont toujours évidemment
interrogées.
Voilà. Donc on en revient toujours à cette question de la construction finalement des sources. C'est particulièrement vrai pour les guerres d'Italie parce que donc Sanudo évidemment c'est une source formidable d'ailleurs pour l'histoire du monde en réalité
et
pas
du
tout simplement pour les guerres d'Italie, mais pour les guerres d'Italie il y a toujours cette question de regarder finalement les dates de fabrication de nos sources, parce que beaucoup sont quand même relativement postérieures aussi aux événements.
Pour nos auditeurs qui seraient curieux de ce texte-là, qui est cité largement dans vos livres à l'un et à l'autre, il a été édité ou il est simplement...
Au 19e siècle, en 59 volumes.
Mais on le trouve en PDF très facilement.
Quand on aime lire,
Victor Massé de l'Épiné.
Oui, moi pour conclure, quand même sur la bataille d'Agnadel, on a un peu parlé donc de sa postérité, mais sur le champ de bataille, on a évoqué à l'instant la notion de guerre juste et les théories de la guerre qui se développent au XVIe siècle. Tout de même, Agnadel, on peut dire que ça a été un véritable massacre. La fin de la bataille, on ne l'a pas dit, puisqu'il y a eu en fait presque pas de prisonniers, pour ainsi dire aucun prisonnier. Tous les soldats vénitiens, c'est-à-dire 10 000, 12 000, 15 000 soldats ont été massacrés sur le champ de bataille.
Alors tous non, parce que beaucoup ont fui, et tant mieux pour eux. Mais effectivement, c'est cette fameuse guerre mortelle. Il y a des textes très intéressants aussi qui nous décrivent la déclaration de guerre, et on a très peu de documents en général sur cet aspect-là de la guerre. Là, c'est vraiment formidable. Et effectivement, le héros dit « Je viens vous déclarer la guerre mortelle qui est à feu et à sang ». Et ensuite, il ajoute que de tout temps, les Français ont coutume de faire. Et donc cette guerre mortelle,
une
c'est effectivement
de tradition encore.
Oui, voilà. Cette guerre mortelle, c'est effectivement l'idée qu'on ne fait pas de prisonniers, on tue tout le monde et on a ensuite des témoins de cette bataille qui disent, ainsi que le roi l'avait dit, les Français ont égorgé les Vénitiens sur le champ de bataille.
On peut dire que François Ier à Pavie a de la chance tout compte fait d'avoir été fait prisonnier, de ne pas avoir été égorgé après ce que son prédécesseur avait fait aux Italiens.
Faut dire que l'interdit est jeté sur Venise et la Sainte Ligue, enfin la Ligue de Cambrai, a toutes les apparences en quelque sorte d'une Sainte Ligue, comme d'ailleurs la bataille de Ravenne. Alors qu'à Pavie, il n'y a pas de danger religieux, mais il a eu de la chance. Ceci étant, la consigne avait été donnée de par le commandement espagnol de tuer tous les chevaliers qui étaient faits prisonniers. Tant que la victoire n'était pas acquise, parce que la crainte, c'est que le système de l'économie de la rançon se mette en œuvre avant l'issue de la bataille, dont consigne avait été donnée, et François Ier a failli y passer, mais il a été protégé par trois soldats basques qui l'ont protégé.
Merci à vous Jean-Marie Le Gall et merci à vous Florence Salazar. Florence Salazar, votre livre est publié avec une préface de Patrick Boucheron aux presses universitaires de Rennes sous le titre La bataille oubliée, Annie Adèle, 1509, Louis XII contre les Vénitiens. Jean-Marie Le Gall, L'honneur perdu de François Ier, Pavie, 1525, est publié dans la petite bibliothèque historique Payot. Et vous venez de publier également chez Droz, Les guerres d'Italie, 1494, 1559, une lecture religieuse. Merci à tous les deux et merci à vous, Victor Massé de l'Épinay. Cette série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur la Renaissance est terminée, mais nous reviendrons bien entendu à un autre moment. Elle a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Antoine Gomez nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et bien entendu, écoutez ou réécoutez cette émission sur le site de France Culture, la télécharger, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir un grand historien, Robert Darnton, avec le partenariat que nous avons avec le magazine L'Histoire et Valérie Hanin.